France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
La mission Chang'e 6 a rapporté sur Terre les premiers échantillons de roches de la face cachée de la Lune. Les résultats des analyses commencent à nous parvenir. Comment extraire du savoir de ce régolithe lunaire ? Dans les années 70, les missions Apollo ont aussi été un grand pas pour la géologie lunaire. 382 kg de minéraux rapportés par la NASA et plusieurs centaines de grammes par les soviétiques. Grâce à ces reliques, les cosmochimistes affinent l'histoire géologique de notre satellite. Après Chang'e 4 en 2019, qui avait exploré pour la première fois la face cachée de la Lune, la mission Chang'e 6 a franchi une étape supplémentaire, rapporter les premiers échantillons de cette région inexplorée. Que peuvent donc nous apprendre ces prélèvements? Exploration spatiale aux pierres de la Lune. Frédéric Moynier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de cosmochimie à l'Université Paris-Cité et à l'Institut de physique du globe de Paris. Pierre-Yves Mélin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue responsable scientifique du projet DORN à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à l'Université de Toulouse. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky tous les jours. On poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment se caractérise la géologie des deux faces de la Lune ? Pourquoi étudier le régolithe lunaire ? Et comment ces échantillons sont-ils traités ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. Avec les missions Apollo, il y a eu un avant et un après. Nous sommes en 1968.
Exploit, succès triomphal, chef-d'œuvre de précision. Par le monde, c'est un concert de louanges. Comment pourrait-il en être autrement ? Oui, prodigieuse réussite d'Apollo 8. À la minute prévue, 16h51, heure française, les trois cosmonautes américains ont atterri dans le Pacifique, à moins de 5 km du porte-avions Yorktown. Bilan de l'opération de Cap Kennedy, Jean-Claude Héberlé.
En termes de bilan, Apollo 8 est un succès complet. Ses raisons sont d'ordre différent, mais on peut classer en tête l'impressionnante série de premières réalisées par ce vol Apollo 8. Premier tir d'une superfusée Saturne V pour expédier un engin habité dans l'espace. Première cabine spatiale habitée lancée sur une trajectoire lunaire hors de l'atmosphère, hors de l'attraction terrestre, dans l'inconnu, à la deuxième vitesse cosmique, c'est-à-dire à plus de 40 000 km à l'heure. Premier engin spatial habité placé sur une orbite lunaire. Première observation directe de la Lune par des hommes à une centaine de kilomètres de notre satellite naturel. Premières images de la surface lunaire transmises par des caméras de télévision tenues par des hommes. Première extraction d'un engin spatial d'une orbite lunaire avec insertion sur une trajectoire Lune-Terre. Enfin, pour la première fois aussi, rentrée directe dans les couches denses de l'atmosphère d'une cabine spatiale habitée à la deuxième vitesse cosmique. Tel est rapidement résumé en termes de bilan, encore une fois, et dégagé de toute trace d'émotion ou de sentiment, le tableau d'honneur d'Apollo 8, le cadeau de Noël de l'administration américaine de l'espace.
Voilà un extrait d'Interactualité sur France Inter en 1968. Frédéric Moynier, on entend là que la liste des succès de cette mission Apollo 8, la liste est copieuse.
Beaucoup de premières, hein. Oui. Donc, premier vol habité, donc avec un retour sur Terre depuis la Lune. Première prise d'image directe par des hommes sur la Lune. On avait eu précédemment avec des vols non habités. Et donc, tout ça en préparation, évidemment, pour l'année d'après, Apollo 11 et, évidemment, Neil Armstrong, Buzz Aldrin qui se posent sur la Lune et qui reviennent sur Terre. Donc, au-delà des premières, avec de nombreuses observations qui ont été très importantes, on a aussi, je pense, une mission très importante pour la préparation de ce qui vient après, c'est-à-dire les hommes sur la Lune et le retour sur Terre.
Pierre-Yves Messelin, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive ?
Eh bien, effectivement, donc, c'était une étape critique avant de pouvoir déployer 6 missions à la surface de la Lune, donc qui ont permis de déployer 12 hommes à la surface de la Lune, et donc qui ont ramené des échantillons qui ont révolutionné à la fois notre connaissance de la Lune, mais aussi de la formation des planètes en général. Et ce que ça m'évoque aussi, c'est que maintenant, on est à peu près 55 ans plus tard, et il est presque aussi difficile aujourd'hui de retourner sur la Lune que dans les années 70. Voilà, on fait de nouveau face aux mêmes difficultés techniques, et on a encore des difficultés à franchir pour renvoyer des hommes sur la Lune, alors que voilà, en 10 ans, les Américains ont réussi à le faire en mobilisant toute une nation pour l'accomplir, mais voilà, c'est aussi ce à quoi ça me fait penser.
Parmi les observations lors de cette mission Apollo 8, il y en a une qui est assez marquante, c'est celle faite par William Anders, un des astronautes, et qui dit, je le cite, « L'autre face ressemble à un tas de sable avec lesquels mes enfants ont joué autrefois. Tout est comme détruit, il n'y a pas de mots pour la décrire, juste beaucoup de bosses et de trous. » Est-ce qu'on peut, Frédéric Moynier, compléter cette description voilà, de ces deux faces, le côté pile et le côté face de la Lune, finalement?
Donc on a ce qu'on appelle la face cachée, la face visible de la Lune. Donc on a une face que, si ce soir, quand on peut voir la Lune, on observe, on remarquera qu'on voit toujours la même chose. On a une face qui nous fait toujours face. Et une face cachée qui est beaucoup plus mystérieuse, qui avait été déjà observée avec des missions Luna une dizaine d'années plus tôt, mais qui est très différente. Les missions soviétiques Luna, qui ont ensuite ramené avec des robots quelques échantillons sur Terre depuis la Lune aussi. Et donc une morphologie, c'est-à-dire un aspect très différent de la face cachée de la face visible. Si on regarde la face visible de la Lune, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des mers, des parties qui sont sombres, des parties qui sont claires, la croûte. Et on voit beaucoup de trous. Mais pas que ça, si on regarde les mers, il y a beaucoup moins de trous que sur les parties plus claires. Et bien la face cachée, elle est surtout composée de ces parties les plus claires, qui sont criblées de trous, En fait, ces trous sont quoi? Ce sont des impacts d'astéroïdes à la surface de la Lune qui viennent écraser, casser, faire des trous, recasser, broyer et faire ce tas de sable, comme décrivait l'astronaute de la mission, c'est-à-dire faire ce régolithe. Le régolithe, c'est quoi? C'est du sable, en fait. C'est du sable qui est très 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 fin, comme de la farine. Pourquoi? Parce qu'on a eu, depuis des milliards d'années, cette accumulation de chocs, d'impacts qui vient broyer, rebroyer la surface de la Lune.
Donc, Pierre-Yves Mélin, pour compléter, là encore, ces différences géographiques et géologiques de ces deux faces.
Donc effectivement, c'est une des caractéristiques les plus fondamentales de la Lune, cette asymétrie entre la face cachée et la face visible. Et outre ces différences morphologiques, on a aussi des différences géophysiques. On sait depuis d'autres missions qui ont été déployées en orbite autour de la Lune que l'épaisseur de la croûte y est différente, beaucoup plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible. On sait aussi que la composition chimique et minéralogique est relativement différente. Et aussi l'histoire de ce bombardement et de l'histoire volcanique qui a aussi été très différente, avec quelques mers qui sont aussi présentes sur la face cachée, mais en beaucoup plus faible proportion que sur la face visible.
Alors cette composition chimique, justement, Pierre-Yves Mélin, ce rigolite lunaire, cette farine, qu'est-ce que c'est plus précisément?
Alors en termes, on va dire au premier ordre, les missions, notamment les missions telles que Clémentine, Lunar Prospector, donc là on est au milieu des années 90, ont permis de cartographier la composition chimique et minéralogique de la Lune à grande échelle, et ont montré que, par exemple, les mers lunaires étaient plutôt enrichies en fer titane, donc se sont fait de couler de lave enrichies en ces deux éléments, alors que la face cachée, qui est constituée de ces minéraux plus clairs, ces hauts plateaux qu'on peut distinguer un petit peu aussi sur la face visible de la Terre, qui sont composés de minéraux plus légers, riches en aluminium, par exemple, et qui marquent des processus de formation très différents entre ces deux morphologies. Et après, peut-être, on pourra parler du grand cratère, du grand bassin d'impact South Poletkin, qui était le site de Chang'e 6, mais qui a encore une autre composition et qui se trouve lui aussi sur la face cachée de la Lune.
Oui, on reviendra en effet un peu plus dans le détail sur ce pôle sud Aitken, Frédéric Moynier, sur ce rigolite lunaire. Un des autres aspects intéressants, c'est que ce sol, il est en constante évolution. C'est aussi un des environnements lunaires qu'il faut détailler ensemble.
Donc ce qu'on appelle le rigolite, donc, qui est ce sol, de la surface de la Lune, est un mélange en fait des roches lunaires qui étaient là depuis le départ, avec les astéroïdes qui sont venus taper dessus. Donc le rigolite est un mélange de matériel extralunaire et de matériel lunaire. qui est au travers des, encore une fois, de l'histoire de la Lune. La Lune a à peu près à plus de 4 milliards d'années, peut-être 4, au moins 4,3 milliards d'années. Donc depuis 4,3 milliards d'années, comme la Lune n'a pas d'atmosphère comme la Terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité des plaques à la surface de la Lune, la seule façon de modifier la surface de la planète, c'est par des impacts. Et donc voilà, donc on a ce sol qui fait plusieurs mètres, qui vient se mélanger, on remélange du matériel, on ramène du matériel, on en recasse, et donc il a une composition qui se mélange entre, comme disait Pierre-Yves, la croûte lunaire qui est la croûte qu'on appelle initiale, primordiale, qui se cadre plus vieux sur la Lune, cette croûte claire que l'on voit, ces minéraux très clairs. Ça s'est formé tout de suite quand la Lune s'est formée. La Lune était toute fondue et on a formé une croûte par une écorce par refroidissement. Cette écorce, c'est la pièce plus ancienne. Quand on a ramené ces échantillons d'Apollo, on a vu qu'ils étaient très vieux. Et donc c'est comme ça qu'on peut dater la Lune, on va dire. Et ensuite, il y a eu du volcanisme, ces mers. C'est pour ça que si on regarde les mers, on voit qu'il y a beaucoup moins de trous, parce que certaines mers sont très récentes. Chang'e 5, par exemple, qui était la face visible de la Lune, qui était une mission qui a retour d'échantillons chinois d'il y a 5 ans, je pense. Chang'e 5 a ramené un petit bout d'une mer lunaire très jeune. Alors, dit très jeune au niveau lunaire, c'est 2 milliards d'années. Et c'était 1 milliard d'années plus jeune que les plus jeunes échantillons d'Apollo. Et si on regarde cette mer, on verra, si vous regardez avec un télescope, il y a beaucoup moins de cratères dans la mer de Chang'e 5 que dans d'autres mers. Donc, pourquoi? Parce que quand il y a du volcanisme qui vient, une éruption volcanique, elle va venir combler tous les trous, elle va venir remplir les trous, faire une belle surface toute lisse, et on va recommencer à creuser avec des impacts. Et donc, les échantillons lunaires, si je peux, c'est un mélange de régolithes et de petits cailloux, donc, qui auront pu être prélevés des mers ou des croûtes, de la croûte.
Là, on comprend bien pourquoi il est important et intéressant d'étudier ces roches, Pierre-Yves Mélin, c'est que ça nous donne accès à des conditions qui sont impossibles à observer sur Terre.
Alors effectivement, les conditions sont très différentes, ont été très différentes lors de la formation de la Lune, mais néanmoins, la Lune sert un petit peu de modèle, de paradigme pour l'étude de la formation et de l'évolution des autres planètes. Par exemple, c'est en retrouvant un petit échantillon dans les échantillons Apollo 11 qui est apparue l'idée que lors de leur formation, les planètes sont suffisamment chaudes pour former ce qu'on appelle un océan de magma. Et cet océan de magma, donc, c'est un modèle qui est apparu pour expliquer la composition de la Lune dès les années 1970. Et ce modèle d'océan de magma qui s'est ensuite solidifié et qui a pu donner naissance à une croûte, un manteau, etc. Et c'est aussi un modèle qui ensuite a été adapté aux autres planètes comme Mars, la Terre. Et donc l'étude de la Lune est vraiment, c'est vraiment un modèle, même si les conditions physiques sont différentes, pour l'étude de toutes les autres planètes, y compris d'ailleurs les gros astéroïdes qui, on sait aussi, ont pu suivre une évolution avec la formation, voilà, différenciée à une structure interne assez complexe, un petit peu comme la Lune.
Alors, quel est donc ce site d'alunissage de Chang'e 6 et quel est cet exploit technique et suffira-t-il à éclairer les dernières zones d'ombre de notre satellite? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de géologie lunaire et de comment les échantillons lunaires sont-ils traités, considérés depuis la Terre. On en parle avec Frédéric Moigné et Pierre-Yves Mélin. On vient de voir que la face cachée de la Lune est donc très différente morphologiquement que de sa face visible. On a pendant longtemps fait l'hypothèse que toute la Lune, que sa face visible était représentative de toute la Lune, alors que non. Mais une question qu'on n'a pas encore abordée ensemble, Frédéric Moigné, c'est comment ça se passe, une extraction d'échantillons? Alors,
il y a deux façons de ramener des échantillons. Soit c'est un humain qui va aller le ramasser, comme c'était le cas des missions Apollo, soit un robot, comme les missions Luna, comme les missions Chang'e 5 et 6. Donc dans les deux cas, et ça a été le cas aussi avec les humains, on ramasse un échantillon. Donc il y a soit on ramasse du régolithe, alors pour Chang'e, c'est du régolithe, donc c'est très fin, donc on peut, avec comme une pelle, ou aspirer l'échantillon et le mettre ensuite dans un conteneur, ou un humain qui va le ramasser lui-même, mais il va aussi le mettre dans un conteneur qui va être scellé. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est quand ça va arriver sur Terre, quand l'échantillon soit contaminé par, vous imaginez, l'atmosphère terrestre ou des poussières terrestres. Et donc, on a vraiment développé ces méthodes-là avec les missions Apollo, et ça a perduré. Ensuite, que ce soit fait par un robot ou par un humain, c'était à peu près la même, je pense, technologie de fermeture pour sceller cet échantillon. Et donc, soit on encapsule un bout de caillou, parce que dans les missions Apollo, on a pu ramener des vrais bouts de cailloux. Certains font plusieurs kilos hein, de bouts de cailloux qui ont été ramenés par les missions Apollo. Soit, dans le cas des missions Chang'e, c'est à peu près 1,7 kg.
Pour Chang'e 6, c'était 2 kilos.
Chang'e 6, c'était 2 kilos. Donc, ils ont été, comme ça, scellés et ramenés scellés sur Terre pour éviter, encore une fois, la contamination. Et pour ensuite les analyser dans des bonnes conditions sur Terre. C'est l'avantage de ramener les échantillons sur Terre, c'est qu'on va pouvoir les garder très longtemps. Elles vont pouvoir les garder des décennies. C'est-à-dire que nous, on a la chance, j'étais pas né au moment des missions Apollo, mais j'ai pu travailler 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, sur des échantillons d'Apollo qui avaient été préservés dans les mêmes conditions que ce qu'elles avaient été ramenées en 69 ou jusqu'en 72, c'est-à-dire sans contamination terrestre, pour essayer continuer à comprendre l'origine de la Lune. Et il y avait eu cette idée qui était vraiment, moi je trouve, qui est incroyable de la NASA dans les 69 et que les Chinois appliquent maintenant aussi, de garder l'échantillon pour les générations futures avec des technologies qui ont été d'analyse, qui ont été améliorées pour essayer de faire de nouvelles choses et comprendre de nouvelles choses sur la Lune.
Oui, de compter sur progrès technologique.
Compter sur progrès, parce que vous parliez de plus de 380 kilos ramenés par les missions Apollo. Je crois que sur ces 380 kilos, il y en a une vingtaine, une trentaine qui ont été utilisés ou qui ont été pour la science ou pour des dons. Chaque nation a eu un petit bout d'échantillon d'Apollo. Mais ça veut dire qu'il reste plus de 300 kilos d'Apollo qui est intact dans le laboratoire, qui n'ont pas été même ouverts.
Oui, 300 kilos, en effet, qui est intact. Ça, c'est bien la philosophie du compte-gouttes, Pierre-Yves Mélan.
Et oui, et je voulais peut-être revenir aussi sur le pourquoi c'est vraiment important de ramener des échantillons, pourquoi on s'embête à aller les chercher, les ramener sur Terre, et pourquoi on a dépensé de l'argent. Alors, pas principalement pour ça, mais en partie pour cela. C'est parce que, en fait, les autres moyens qu'on a d'étudier la surface de la Lune, c'est soit par des satellites, mais qui, là, ont pour la plupart une résolution spatiale assez faible, de quelques dizaines à centaines de mètres, voire à quelques centaines de kilomètres. Donc, ce n'est pas suffisant. Ça nous permet une couverture globale de la Lune, mais pas une compréhension suffisamment fine de la composition chimique et minéralogique. Ensuite, on peut envoyer des robots. Mais à bord de robots, on peut explorer plusieurs endroits, mais ils n'ont pas l'instrumentation suffisamment précise tels qu'on peut les avoir sur Terre. Donc ça, c'est vraiment important de les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier avec vraiment les meilleurs instruments possibles. Et en fait, il y a une autre source aussi d'échantillons lunaires auxquels on a accès, ce sont les météorites lunaires. Il y a à peu près 1200 kg de matériel lunaire qui est arrivé naturellement sur Terre suite à des impacts. Alors, on a une très bonne connaissance de ces météorites lunaires, mais malheureusement, on ne sait pas précisément d'où elles viennent sur la Lune. Donc, voilà, aller chercher les échantillons directement à la surface de la Lune et les ramener, ça permet à la fois donc une très bonne précision analytique, mais aussi de bien documenter le contexte géologique d'extraction de ces échantillons.
Un des autres aspects, c'est que l'étude du régolithe, ça comporte cet autre intérêt auquel on ne pense pas forcément, c'est l'étude des gaz et des radiations. Pierre-Yves Mélan.
Oui, alors c'est une composante beaucoup moins connue de la Lune, mais effectivement, on sait depuis d'ailleurs les missions Apollo que la Lune possède une petite atmosphère, très ténue, de quelques dizaines de tonnes, ce qu'on appelle effectivement une exosphère, et dont la principale source est le vent solaire. Mais on pense que la Lune elle-même est à l'origine de sa propre atmosphère avec du dégazage, donc qui avait été détecté par les missions Apollo, qui ont déployé un spectromètre de masse à la surface de la Lune et qui ont pu mesurer certains gaz aussi en orbite autour de la Lune. Et donc, il y a aussi des questions sur l'origine et la dynamique de cette exosphère. Et puis, ensuite, il y a d'autres... Ces gaz qu'on peut retrouver dans l'atmosphère de la Lune, ils vont migrer à la surface. Alors, la plupart vont s'échapper dans l'espace, hein, parce qu'ils ne vont pas pouvoir être retenus par la gravité lunaire pendant très longtemps. Mais une partie aussi va pouvoir s'accumuler au niveau des pôles où on va retrouver des glaces et qui forment une des objectifs prioritaires des futures missions lunaires.
Frédéric Moigny.
Non, donc ces gaz, donc ce qu'on parle de gaz, on parle d'hydrogène, on parle d'eau, donc qui est amené par le vent solaire. C'est-à-dire, le vent solaire, c'est ce, en fait, le soleil, c'est quoi? C'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium. Et donc le vent solaire, c'est surtout des protons, c'est surtout de l'hydrogène qui va venir frapper de plein fouet la Lune depuis, encore une fois. Il faut imaginer que c'est depuis plus de 4 milliards d'années qu'on a cette accumulation de vent solaire à la surface de la Lune. Et ça, c'est une source. Il y a aussi la source des météorites. Je pense qu'on a aussi tous ces impacts qui, certaines météorites, vous avez peut-être eu des émissions sur le Ryugu, sur l'émission Hayabusa 2 ou Osiris Rex, qui ont ramené des bouts d'astéroïdes carbonés qui sont en fait assez riches en eau. Et donc, quand on a ces impacts d'astéroïdes riches en eau, ils vont aussi amener eux-mêmes de l'eau qui va aussi s'évaporer et essayer de se condenser là où il fait le plus froid, c'est-à-dire au pôle. Et ça, c'était une première chose pour cette histoire d'exosphère. Et aussi pour le vent solaire, pourquoi la régolithe est très intéressante, ça nous a permis de comprendre comment la Lune s'était formée, donc ça c'était, quelle a été la composition chimique de la Lune, comment la Lune s'était formée, c'est-à-dire la théorie de l'impact géant, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne là-dessus après, mais ça fait partie des idées. Mais aussi, et c'est des choses que nous, on s'y intéresse beaucoup, c'est qu'on peut utiliser le régolithe lunaire comme aussi source de vent solaire. Parce que nous, on veut comprendre aussi de quoi est fait le Soleil, quelle est la composition du Soleil. Et nous, sur Terre, on a très peu de vent solaire parce qu'on a la chance qu'il y ait un champ magnétique qui va nous dévier ces protons qui sont des particules chargées, qui sont nocifs pour nous, qui sont nocifs pour beaucoup de choses, qui sont nocifs pour les astronautes dans l'espace, c'est toujours un problème. Eh bien non, mais là, sur la Lune, ça s'est accumulé depuis 4,3 milliards d'années. Et donc, on a beaucoup de vent solaire implanté à la surface de ces graines de régolithes. Et donc, en analysant ces graines de régolithes, on arrive à remonter à la composition du Soleil. Et donc, c'est utiliser la Lune aussi comme source de vent solaire.
Vous avez rapporté, vous nous avez ramené des échantillons lunaires sur ce
plateau. C'est très pratique à la radio.
Non, mais vous allez nous servir, vous allez être nos yeux. Là, je vois, vous avez un petit échantillon. Alors là, comme ça, à vue de nez, ça ressemble à un bouchon de champagne. Mais,
c'est peut-être moins excitant que, enfin, le bouchon de champagne en lui-même, pas très excitant, mais, donc c'est un conteneur qui contient un échantillon d'Apollo 11. Donc ramené, alors je ne sais pas si c'est Neil Armstrong ou Buzz Aldrin qui a ramassé celui-là. Donc c'est un échantillon d'Apollo 11, donc je vais l'ouvrir en direct à la radio. Et donc si vous venez regarder, c'est un petit bout de caillou, vous pouvez regarder, ne le faites pas tomber, il reste dans le conteneur. C'est un petit bout noir, de caillou noir, c'est pas très impressionnant, c'est un petit bout de basalte. C'est un petit bout de basalte lunaire, c'est ce qu'on appelle un bout des mers lunaires. Oui. Donc ça c'est l'Apollo 11, c'est la mer de la tranquillité, donc c'est un petit bout de la mer de la tranquillité. Et donc, ça fait partie de ces échantillons de roches lunaires qui nous ont permis, en étudiant ces roches, on va pouvoir comprendre. Donc, ce basalte, c'est quoi du basalte? C'est comme sur Terre, c'est du volcanisme. C'est qu'on a fondu quelque chose qui est en profondeur dans la Lune. On a fondu parce qu'il y avait un excès de chaleur, parce qu'il y avait des éléments radioactifs. On fond la roche. Cette roche qui devient fondue est plus légère qu'en fait que la roche solide autour, et donc elle va remonter par gravité. Et donc, ça nous donne une fenêtre. Alors, c'est intéressant pour essayer de comprendre, en sur Terre, le volcanisme. Mais nous, en tout cas dans notre laboratoire, on s'intéresse comme fenêtre de ce qui est en dessous. Et donc ça nous permet d'essayer de comprendre ce qu'il y a sous la croûte de la Lune et donc comprendre mieux de quoi la Lune est formée. Et donc ces échantillons de mer ont permis de les comparer, donc de comprendre la composition de la Lune. Je vous aurais mis un basalte terrestre. Vous n'auriez pas fait la différence. Vous n'auriez pas vu la différence. Ça ressemble beaucoup morphologiquement. Il y a une très grosse différence chimique, c'est-à-dire que ces cailloux-là sont beaucoup plus secs que des cailloux terrestres. Et ça a été une des grosses observations des missions chimiquement dès les retours des missions Apollo. C'est que la Lune, ça ressemble beaucoup à la Terre pour beaucoup de choses, mais sauf que c'est beaucoup plus sec. Alors, si vous regardez la Lune, vous verrez, il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune. On se doute que la Lune, il manque quelque chose. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer. Mais même les cailloux en eux-mêmes, c'est comme si on prenait des basaltes sur Terre et qu'on les chauffait et qu'on les dessèche, si vous voulez. Et donc ça a été très important. C'est pour ça que, comme disait Pierre-Yves, les missions Apollo ont permis vraiment de comprendre beaucoup de choses. Ça a complètement modifié notre compréhension de comment la Lune a pu se former et aussi comment la Terre, en fait, et comment toutes les planètes, comme disait Pierre-Yves, ont pu se former. Et ça, c'est un des arguments très forts, c'est que ça a été très sec, donc l'idée d'un impact, on chauffe tout, on fond tout, l'idée de cet océan de magma, c'est-à-dire cette boule de planète en magma, en fusion, qui fait une atmosphère d'ailleurs, hein, et cette atmosphère, elle peut être perdue, et on reste avec ça va refroidir et des choses très sèches.
On va revenir dans quelques instants sur ce que ces petites pierres grises nous apprennent de l'histoire géologique lunaire. C'est assez émouvant de tenir ces échantillons que je vous remets d'ailleurs précieusement. Les derniers échantillons, eux, nous viennent donc du pôle sud Etken, la mission Chang'e 6, la face cachée. Alors peut-être Pierre-Yves Mélin pouvait nous dire pourquoi ce site d'alunissage était un site très important pour justement la compréhension de la Lune.
D'accord. Alors en effet, le choix du site d'alunissage de Chang'e 6 par les Chinois s'est fait sur plusieurs critères. Donc ils ont choisi d'atterrir dans un cratère, le cratère Apollo, qui est un cratère d'à peu près 500 km de diamètre, qui lui-même en fait se trouve dans un bassin d'impact beaucoup plus grand, qui est le bassin South Pole Aitken. Alors pourquoi ce nom-là ? Parce qu'en fait il est tellement large qu'il s'étend du pôle sud de la Lune jusqu'aux moyennes latitudes de l'hémisphère sud. Et alors cet impact qui a créé ce bassin, l'impact qui a créé ce bassin, on pense qu'il était suffisamment énergétique, suffisamment puissant pour éjecter du matériel qui a pu venir soit de la base de la croûte lunaire, voire même du manteau de la Lune. Et donc, ce qu'on espère retrouver dans les échantillons de Chang'e 6, ce sont des fragments de la croûte inférieure et du manteau lunaire. Et en plus, ce site d'alunissage se trouve pas très loin des hauts plateaux lunaires qui caractérisent la face cachée. Et on s'attend à retrouver dans les éjectas, dans le matériel, dans le régolithe de ce site d'alunissage, des bouts d'échantillons des hauts plateaux. Et d'ailleurs, les premiers résultats le confirment. Et le troisième point important qui a conduit au choix de ce site, c'est la présence d'activités volcaniques. Dans ce cratère, on a pu détecter plusieurs coulées de lave. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre le volcanisme lunaire que l'on connaît relativement bien sur la face visible, mais que l'on connaît très peu de la face cachée et qui est très rare à la surface de la... qui est très rare du côté de la face cachée. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre pourquoi le volcanisme a pu être différent, ce qu'il était de nature différente, quel était le timing de ce volcanisme, et comprendre donc la symétrie de nouveau entre la face cachée et la face visible de la Lune.
Voilà, ces échantillonnages du pôle sud Aitken sont uniques, mais sont-ils tout à fait différents de ceux qu'on a rapportés de la face visible ? Restez avec nous.
La cabine Apollo 8 va rentrer dans la zone d'ombre, c'est-à-dire qu'il y aura un blackout total du fait que la cabine sera de l'autre côté de la Lune. Actuellement, Apollo 8 est inscrit sur une orbite de 111 km de périgée et de 310 km d'apogée, c'est très peu différent des chiffres prévus. Le travail a déjà commencé à bord puisque l'équipage a repéré un premier site d'atterrissage possible pour la finale de l'opération Apollo, pour Apollo 10 ou Apollo 11. Les cosmonautes ont fait une description du paysage qui s'offre à eux. C'est un paysage désolé, ont-ils dit, absolument inhospitalier. Il ne peut y avoir aucune vie à bord. Je vous rappelle que le suspense a commencé à 10h58 lorsque le top de mise à feu du moteur a été donné. Le fait que Apollo 8 soit passé immédiatement dans la zone d'ombre de la Lune a causé un petit problème car nous n'avons pas eu confirmation de cette mise à feu de la mission orbite avant 11h30. Les liaisons radio ont été interrompues et Gorman n'a pas eu le temps de dire le fameux OK que tout le monde à travers le monde attendait. À 11h30, Apollo 8 est sorti à l'horizon de la Lune. On a entendu un premier bip-bip. La tension est un peu retombée ici à Cap Kennedy. Et lorsque la voix de Gorman a retenti, il y a eu des applaudissements. Tout le monde était heureux et on comprend cela. Un peu plus tard, Gorman a donné les coordonnées de son orbite. Alors maintenant, à 15h22 heure de Paris, après deux orbites elliptiques, le moteur sera remis à feu pour inscrire Apollo 8 sur une orbite circulaire d'environ 110 km de rayon. Ensuite, nous serons en route pour 10 révolutions de 2 heures et à chaque fois, il y aura 45 minutes de blackout, c'est-à-dire lorsque Apollo 8 passera derrière la Lune. Voici, nous en sommes à Cap Kennedy, à vous Paris.
Une archive de 1968, la mission Apollo 8, et en direct sur France Culture, Super Moon de Love Supreme, car nous parlons du retour sur Terre des échantillons de la face cachée de la Lune. On en parle en compagnie de nos deux invités du jour, Frédéric Moynier, professeur de cosmochimie à l'Université de Paris Cité et à l'Institut de Physique du Globe de Paris, et Pierre-Yves Mélin, planétologue, responsable scientifique du projet DORN à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie à l'Université de Toulouse. Grâce à ces reliques, les cosmochimistes comme vous, Frédéric Moynier, peuvent donc étudier plus finement l'histoire géologique de la Lune et notamment de sa genèse. On l'a évoqué en début d'émission, l'hypothèse la plus couramment admise, c'est celle de l'impact géant. Alors quel est ce scénario qui a donné naissance à notre satellite naturel ?
Donc le scénario de l'impact géant, donc, qui est apparu à travers les années après le retour des missions Apollo, et l'idée c'est qu'on a eu à un moment donné, donc, la Terre venait de se former, elle était en formation. Elle a reçu un impact d'un corps. Alors, le scénario le plus classique, c'est un corps de la taille de Mars. Mars, ça fait 10% de la masse de la Terre, donc c'est quand même, c'est plus petit que la Terre, mais c'est quand même pas rien, qui est venu donc cogner dans la Terre, faire un gros impact dans la Terre, qui a, vous imaginez, donc un cataclysme énorme, qui a refondu une grande partie de la surface de la Terre et même de ce qui est en dessous, du manteau de la Terre, et a éjecté du matériel en orbite autour de la Terre. Ce matériel en orbite, une grande partie va retomber sur la Terre. 90% de ce matériel va venir, en fait, ça va agrandir la Terre. Donc Mars, ça fait 10% de la masse de la Terre, et la Lune, si on veut se rappeler, c'est simple, c'est 1% de la masse de la Terre, comme ordre de grandeur. Et donc, il va rester 1% de la masse de la Terre qui va ensuite se reformer et faire cette Lune en fusion. Donc c'est pour ça qu'on parle d'océan de magma, et qui va ensuite refroidir pour faire la Lune comme on peut la voir maintenant, ou quelque chose comme ça. Et ce scénario, il aurait été complètement absurde d'imaginer ce scénario avant le retour des missions des échantillons d'Apollo. Parce que ça va permettre, ces théories, qu'est-ce que c'est qu'une théorie ? C'est va être un modèle qui va permettre d'expliquer toutes les observations, que ce soit chimique, c'est-à-dire ce qu'on a pu observer sur les échantillons d'Apollo, physique, c'est-à-dire quand on regarde comment la Lune tourne autour de la Terre, la vitesse à laquelle elle tourne, le plan de rotation de la Lune autour de la Terre, etc. Et dès qu'on a de nouvelles observations, bah, il faut pouvoir réviser une théorie, ça peut se réviser, c'est pour que ça puisse expliquer toutes les observations. Et à l'heure actuelle, c'est la seule théorie qui peut expliquer tout ce qu'on peut observer sur la Lune.
C'est ça, c'est que les échantillons ramenés par Apollo, on voit une immense similitude géochimique des minéraux terriens et lunaires. À quel point justement ces minéraux sont-ils similaires ?
Ils sont similaires donc chimiquement. Alors, quand on regarde la chimie du système solaire, c'est-à-dire à partir de météorites ou de Mars, on a des météorites qui viennent de Mars, de la Terre, on a des variétés, une variation de composition de chimie fine, qu'on va parler de chimie isotopique, de ces rapports d'isotopes, par exemple l'oxygène, il y a plusieurs isotopes, peut-être qu'on connaît peut-être l'hydrogène et le deutérium, qui est l'hydrogène 2. Et donc quand on regarde ça, on a une grande variabilité dans le système solaire. Et quelque chose qui est assez incroyable, c'est que la Lune, la Terre, et ça a commencé dans les années 70, et puis vous voyez, 50 ans plus tard, on arrive à faire des mesures de plus en plus précises, et on a beau améliorer la précision, avec plusieurs chiffres après la virgule, et on est toujours très très similaires, identique même, entre la Lune et la Terre. Et donc ça fait que le matériel lunaire ressemble beaucoup au matériel terrestre. La Lune est un bout de Terre qui a été éjecté, mais ça n'explique pas, par exemple, pourquoi elle serait si pauvre en volatile, pourquoi elle aurait été aussi sec. Et donc, pour expliquer tout ça, donc, le meilleur théorie, c'est qu'il y a eu un impact. Alors, il a fallu mélanger, parce qu'il faudrait que la chose qui est venue impacter ressemble aussi beaucoup à la Terre, ça amène quelques petits problèmes. Mais ensuite, pour former ce matériel lunaire, donc très semblable à la Terre, à la différence près de l'eau et des volatiles.
Voilà, avec nos deux corps, la Lune et la Terre, qui partagent les exacts mêmes isotopes, comme vous disiez. Alors, on a parlé également de l'atterrissage, du site d'atterrissage de Chang'e 6, les régions, le bassin pôle sud Etkin, qu'on a vu, hein, c'est un site qui est réputé pour sa profondeur, l'ancienneté de leurs roches. Là encore, que nous enseignent les roches de la face cachée de la Lune sur le volcanisme lunaire, Pierre-Yves Mélin?
Les Chinois ont publié assez récemment les premiers résultats de leurs analyses. Donc le premier article qui est paru, par exemple, décrit simplement les propriétés physiques, chimiques, la composition chimique et minéralogique des grains, des quelques échantillons qui ont été prélevés avec une petite pelle sur la toute surface. Donc c'est là juste une description. Mais il y a eu ensuite deux articles importants qui ont permis de dater des roches volcaniques. Donc, ce qui ressort un peu des premières études, c'est qu'effectivement, l'essentiel du matériel qui a été collecté provient de ces coulées de lave dont je parlais tout à l'heure. Mais on retrouve aussi une petite composante externe qui provient d'éjecta des hauts plateaux lunaires qui entourent. Et en datant les basaltes, donc ces roches volcaniques qui ont rempli le fond du cratère, ils ont pu mettre un âge à 2,8 milliards d'années. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est que l'essentiel du volcanisme lunaire date d'il y a plus de 3 milliards d'années. Donc on voit que sur la face cachée de la Lune, on avait encore du volcanisme à 2,8 milliards d'années. Et donc maintenant, il faut expliquer comment on a pu avoir ce volcanisme. Et donc les premières études essayent de trouver les mécanismes qui ont pu conduire à ce volcanisme. Et il y avait donc par exemple deux hypothèses. Une première hypothèse, c'est que les sources dans le manteau qui ont fourni ces magmas étaient riches en éléments radioactifs qui vont pouvoir fournir de la chaleur. Mais il semblerait qu'on n'ait pas ce matériau-là riche en éléments radioactifs qui puisse expliquer ce volcanisme. Donc peut-être une autre interprétation, ce serait que le grand impact qui ont frappé cette région de la Lune ait pu donc conduire à un amincissement de la croûte et que ce soit la finesse de cette croûte-là qui permette au magma de remonter jusqu'à la surface.
Et c'est ce qui expliquerait également cette épaisseur de la croûte qui est différente selon les faces également.
Voilà, donc ça c'est vraiment l'effet donc des impacts qui ont affiné, aminci la croûte. Mais en fait, l'histoire est encore plus compliquée et je pense que ça va se complexifier au cours des prochaines années puisqu'une autre équipe a montré que dans ces échantillons, on retrouvait aussi un petit fragment de basalte qui date de 4,2 milliards d'années, donc beaucoup plus ancien, et donc qui montrerait que le volcanisme a duré peut-être au moins 1,4 milliards d'années aussi sur la face cachée. Et donc voilà, donc c'est le début d'une histoire très très complexe qui s'annonce.
Frédéric Moigny, on n'a pas encore tous les éléments pour démêler l'histoire du volcanisme lunaire.
Voilà, on parlait tout à l'heure de la différence entre la face cachée et la face visible, et on a parlé de morphologique, il y a plus d'impact sur la face cachée que sur la face visible, et qu'il y a moins de mer, il y a moins de basalte. Et donc ça, c'était une des grandes questions qu'on n'a pas encore bien compris, pourquoi on n'a pas la solution de pourquoi il y a si peu de volcanisme sur la face cachée par rapport à la face visible. On sait que la croûte de la face cachée est beaucoup plus épaisse, et donc le manteau d'où proviendrait le basalte est plus profond, donc ça serait, il a peut-être la raison, mais quand on regarde la composition avec l'émission, donc comme Clémentine, je pense, tu parlais, Pierre-Yves, on s'aperçoit qu'il y a moins d'éléments radioactifs, on dirait, en surface de la face cachée que de la face visible. Et ces éléments radioactifs qui sont sur Terre, en général, la source de chaleur qui permet, quand vous allez à la Réunion, qu'il y a du volcanisme à la Réunion ou à la Guadeloupe, c'est parce qu'il y a des excès de chaleur dans le manteau sous la Réunion ou sous la Guadeloupe qui font ce manteau et qui fait remonter le matériel. Mais sur la Lune, c'est pareil. On pense que toutes les mers sont faites comme ça, par fusion, en profondeur, parce qu'il y avait des éléments radioactifs. Et donc, dans le cas, exactement ce que disait Pierre-Yves, dans le cas du pôle sud Aitken, les laves qui ont été ramassées, finalement, elles n'ont pas beaucoup. Elles sont jeunes, relativement jeunes, plus jeunes que Apollo. Et donc, pour que ça ait fondu, il faudrait quand même qu'il y ait des éléments radioactifs. Et on s'aperçoit qu'il y a peu d'éléments, comme le potassium, par exemple, qui a un isotope radioactif, qui est une source de chaleur très importante sur Terre et sur la Lune. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, voilà, c'est cette différence d'épaisseur. Mais juste, on n'a pas parlé de ça, un truc très important. Je vous ai montré tout à l'heure l'échantillon d'Apollo. Tout ce qu'on sait, c'était sur Apollo. Et pourquoi cette mission Chang'e 6 était très importante, au-delà de dater, évidemment, le volcanisme lunaire, c'était de tout ce qu'on avait appris, toute la théorie de l'impact géant dont je vous ai mentionné tout à l'heure, c'était basé sur Apollo. Et donc, il fallait pouvoir tester, est-ce que c'est vrai sur d'autres échantillons? Est-ce que ça représente vraiment la Lune? Et donc, quoi de mieux que d'aller sur du volcanisme de la face cachée pour voir est-ce que le matériel qui est de l'autre côté de la Lune ressemble au matériel d'Apollo, ou est-ce qu'on ne dit pas des bêtises depuis 60 ans sur la Lune? Et finalement, les premiers résultats qui sont sortis avec les résultats de Chang'e 6, c'est que c'était pas trop idiot, ça ressemble quand même beaucoup on parle d'isotopes, ça ressemble énormément à Apollo.
C'est ça, ça ne met pas en péril l'hypothèse de l'impact géant, et puis finalement on peut dire...
Même de notre compréhension de la composition de la Lune.
Voilà. Mais finalement c'est déjà un résultat en soi, même si à l'Ouest, rien de nouveau. Ouais. On poursuit avec le reportage du jour, ou comment fabriquer des mini-lunes en laboratoire. À partir de l'analyse de ces échantillons lunaires, on peut monter des expériences pour essayer de simuler les conditions de formation de la Lune. Et c'est ce qu'on va voir avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu à l'Institut de physique du globe de Paris de l'Université Paris Cité, où ils forment des mini-lunes grâce à une expérience dite de lévitation laser.
Oui, ça paraît mystérieux comme ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, je commence d'abord peut-être par vous redire un mot du scénario le plus probable concernant la formation de la Lune. Vous en avez parlé tout à l'heure, Frédéric Moynier, mais le plus probable, c'est qu'il y ait eu cette collision entre la Terre et une hypothétique planète qu'on dénomme souvent Théia. De cette collision seraient restés des débris qui, en s'agglomérant, auraient peu à peu formé la Lune. Durant cette période, les débris en question étaient en fusion à des températures très élevées. Et l'expérience à laquelle j'ai assisté essaye de reproduire ces conditions qui ont peu à peu transformé des roches terrestres en roches lunaires. Mais pour vérifier l'efficacité de ces expériences, encore faut-il savoir de quoi est composée la Lune, d'où l'intérêt d'en ramener des échantillons. Julien Siebert est professeur à l'Université Paris Cité et chercheur dans l'équipe cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale.
Alors, ça c'est un échantillon qui est intéressant, c'est un retour d'échantillon de la mission Apollo 14. Et cet échantillon, en fait, c'est une brèche lunaire, c'est-à-dire que c'est un mélange de la croûte de la Lune, on le voit ici, hein, ce sont les petits minéraux blancs, qui sont des plagioclases, hein, qui viennent de la croûte lunaire en fait. Et puis vous avez des minéraux plus sombres, hein, donc qui sont des basaltes lunaires. Donc des roches qui sont plutôt des roches correspondant au manteau de la Lune. Voilà. Ici dans cet échantillon, en fait, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a représenté le manteau et la croûte de la Lune en un échantillon.
Donc ce genre d'échantillon, vous, il vous intéresse ici notamment pour essayer de retrouver comment on en est arrivé à cette composition-là. C'est-à-dire comment, lors de l'événement qui a formé la Lune, on en est arrivé à cette composition chimique-là.
Alors c'est ça. La Lune, elle a un lien de parenté avec la Terre assez proche. Hein. Ce sont un peu des sœurs jumelles. En revanche, il y a quand même des distinctions qui sont notables et qu'on mesure dans ce type d'échantillon avec les roches terrestres. Notamment ces échantillons lunaires, ils sont appauvris en éléments qu'on dit volatiles, donc c'est des éléments qu'on retrouve plutôt dans l'atmosphère terrestre, dans l'hydrosphère terrestre, et ce sont des composants primordiaux pour l'habitabilité d'une planète, pour l'émergence de la vie. Et la Lune, elle est très appauvrie dans ces éléments volatiles, dont l'eau fait partie notamment. Et par les expériences qu'on fait, on essaye de comprendre en fait quelles conditions de formation du satellite ont pu conduire à ces appauvrissements, notamment en éléments volatiles de la Lune.
Et donc on va essayer de recréer un petit peu ces conditions.
On pense que dans cette étape de formation de la Lune, on va avoir ce qu'on appelle un océan de magma global à la surface de la Lune. Et au cours de cette formation de cet océan de magma, on peut avoir des processus d'évaporation de ces éléments volatiles qui vont expliquer les différences qu'on observe avec les roches mantelliques. Donc au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la composition de notre manteau terrestre. Ça, on la connaît plutôt bien. On regarde la composition de la Lune, hein, avec ce type d'échantillon. On observe des différences et on va expérimentalement essayer de voir quelles conditions de formation de la Lune peuvent expliquer les différences qu'on observe.
Et donc ça, c'est l'expérience qu'on peut essayer de faire maintenant.
Voilà. Alors là, ce qu'on va faire avec Nicolas, c'est une expérience de lévitation laser. Donc on va reformer à l'échelle du laboratoire une petite Lune en fusion.
Nicolas Vert, vous qui êtes ingénieur ici, je vous laisse faire l'expérience et puis nous décrire, nous raconter un peu tout ce qui se passe.
Vous avez ici un petit creuset qui fait quelques millimètres de diamètre dans lequel va se trouver l'échantillon qu'on va synthétiser. Et là, il y a un pyromètre qui permet de mesurer la température. Derrière, vous avez un laser qui va venir frapper l'échantillon pour le chauffage. Et ici, l'installation avec les bouteilles de gaz et les débitmètres qui permettent de gérer le flux de gaz et donc de faire léviter l'échantillon. Voilà. Et un ordinateur qui permet évidemment de contrôler tout ça, donc à la fois le laser, le flux de gaz, la mesure de température et ainsi de suite. Allons-y, bah, je vais ouvrir le gaz du coup. Il y a quand même un truc, c'est qu'on va utiliser un laser. Donc ça, il y a des sécurités. J'ai fermé la porte à clé, personne ne peut rentrer. Nous, on peut sortir s'il y a besoin. Voilà. Vous n'êtes pas... Mais quand même, voilà.
C'est mieux.
Et donc, on va mettre des masques qui nous protègent contre ce rayonnement du laser, qui est un rayonnement infrarouge. Bon, on est bon. tout est prêt, je crois.
C'est rassurant.
Ouais, ouais. Donc là, je vais introduire l'échantillon dans le creuset.
Oui, là, on le voit à la caméra, l'échantillon.
Là, on voit l'échantillon au fond du creuset. Il faut mettre suffisamment de gaz pour que, quand on va le chauffer, l'échantillon soit en lévitation, mais pas trop, parce que si le flux est trop fort, l'échantillon, il s'envole. Maintenant, je vais allumer le laser. Ok, c'est bon. Donc, vous avez entendu le petit bruit suraigu, là, c'est le laser qui démarre. Et puis maintenant, on va jouer pour le chauffer, le faire fondre.
Ah oui, tout de suite, il a tout de suite formé une bille.
Voilà. Donc ça, c'est mécanique et naturel. Hein. Là, on voit sur le graphique, on a chauffé à 1800 degrés et on obtient donc une bille. Mais là, par contre, elle est très blanche, elle n'est pas du tout vitrifiée, cette bille. Donc maintenant, ça va être le jeu, c'est de réussir à la fondre et à la tremper correctement.
Oui, là, elle bouge parce qu'elle est dans le flux de gaz, hein, et puis Nicolas, il va la refondre. Ouais. Voilà, là, il va la refondre, et vous allez voir que voilà, elle va complètement s'homogénéiser.
Donc là, elle est bien fondue, bien homogène, bien...
Là, vous voyez la température ici qu'on lit, là, hein, on est au-dessus de 2000 degrés, on est quasiment à 2100, là, degrés C. Hein, ouais. Et donc là, on est à un état thermique. On a les matériaux qui sont complètement fondus et on reproduit complètement ces conditions initiales de formation de la Lune et de son magma global à la surface de la Lune.
Et la bille qui était complètement rouge, là je vois qu'elle est devenue presque d'un coup transparente. Alors, c'est qu'elle a refroidi justement.
C'est qu'on l'a refroidi et on l'a vitrifié. Donc là c'est un verre transparent, donc là, l'expérience a bien réussi. Là pour nous normalement on récupère la bille et on part pour l'analyse, tout à fait.
Donc c'est très court, hein, vous avez vu, parce que en fait à ces températures-là, les éléments chimiques ils diffusent très très vite. Donc vraiment à l'échelle du laboratoire, on a formé, comme vous avez vu, une petite planète fondue. Hein. Alors là, en l'occurrence, on essaye de reproduire les conditions de formation de la Lune, mais on peut le faire pour d'autres types de matériaux. Okay, ensuite on va récupérer cette bille et puis passer sur des instruments analytiques de très haute résolution, à la fois spatiale et surtout analytique. Donc des spectromètres de masse, de la microscopie électronique, des sondes ioniques, etc., etc. Et donc là, vous allez pouvoir récupérer cette petite lune primitive, hein, qui a été donc refroidie quasiment instantanément, et l'emmener avec vous à Radio France.
Synthétique et vitrifié, Natacha, pour vous le montrer. Il est dans cette toute petite fiole. Comme vous pouvez le constater, la bille que nous avons formée avec Julien et Nicolas est minuscule puisqu'elle doit faire, je sais pas, moins d'un millimètre de diamètre.
Eh bien, merci. Merci pour cette mini-lune primitive et pour ce reportage, L'œil du toit. La collection La Science au Labo qui nous emmène loin du studio. C'est une collection à retrouver en podcast sur l'appli Radio France. Pierre-Yves Mélin, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Eh bien, vous voyez que donc il y a de la science de la Lune qui se fait sur la Lune. donc on a vu toute la panoplie, les satellites, les rovers, les humains ou les machines qui renvoient des échantillons. Et après, effectivement, il y a tout un travail de laboratoire qui va nourrir des scientifiques pendant des dizaines d'années. Et donc nous, par exemple, en France, hein, les chercheurs peuvent encore demander des échantillons Apollo. Donc nous, par exemple, je travaille avec des collègues on a fait une demande récemment pour obtenir des échantillons Apollo qu'on va bientôt analyser en laboratoire. La Chine a offert à la France 1,5 gramme de sa précédente mission lunaire Chang'e 5. Donc on est plusieurs équipes en France à s'intéresser et à préparer l'analyse de ces échantillons-là. Et bien sûr, on attend aussi les échantillons de Chang'e 6 et des missions futures. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail, comme ça a été illustré par ce reportage, dans les laboratoires. Avec de la science très très pointue, très fine, qu'on ne peut pas faire directement à la surface de la Lune.
Ce que vous dites, ça soulève également un autre aspect, c'est que ces échantillons lunaires se retrouvent au cœur de la diplomatie des terriens également. Et ce qu'on n'a pas dit également, c'est que Chang'e 6, ça représente la première collaboration franco-chinoise dans l'histoire de l'exploration spatiale.
Effectivement, donc moi en tant que responsable scientifique du projet DORN et toute l'équipe scientifique et technique qui a contribué à ce projet-là, on a eu la chance d'être impliqué dans le déploiement dans cette mission de Chang'e 6, donc qui a permis de déployer le premier instrument français à la surface de la Lune et aussi d'établir cette première collaboration entre la France et la Chine dans le domaine de l'exploration du système solaire. Donc c'était vraiment un projet passionnant pendant 5 ans et on a eu la chance d'être aux premières loges pendant la durée de la mission. On a pu voir l'atterrissage du lander, le prélèvement des échantillons, puis le redécollage. Donc ça, on était vraiment content d'être impliqué dans cette mission-là.
Frédéric Monnier, on a parlé de Chang'e 5 et 6. Quels vont être les objectifs de Chang'e 7 et 8 prévus en 2026 et 2028?
Donc là, on parle de la suite donc de Chang'e 7, donc Chang'e 6, donc il va être Chang'e 7, Chang'e 8, qui sont des missions, donc qui ne sont pas des missions de retour d'échantillons. Donc, qui sont des missions avec des robots à la surface de la Lune, mais des robots qui sont, on va dire, intelligents, qui sont équipés, qui peuvent faire des mesures, donc notamment des mesures de volatiles. Donc, c'est toujours une question qui était aussi abordée avec Chang'e 6. Donc, Chang'e 7 va repartir dans la même zone, c'est le pôle Sud-Elkin, je pense aussi pour Chang'e 7, qui va être en tout cas face cachée pôle Sud, pour essayer de continuer d'analyser ce régolithe, mais sur place, in situ, sur la Lune, pour préparer la suite, c'est-à-dire le développement d'une base potentiellement habitée par des astronautes chinois qui sont des taïkonautes, c'est ça. Et donc l'idée, c'est d'aller... On sait qu'il y a de l'eau, au pôle sud, on en a parlé au début de l'émission, mais on ne sait pas vraiment en quelle quantité elle est là, donc quelle est sa qualité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est mélangée au régolithe, est-ce qu'on va pouvoir l'extraire, parce que si on met des gens sur place, ça serait quand même très pratique de pouvoir utiliser l'eau qui serait déjà présente sur la Lune. Donc Chang'e 7, Chang'e 8 sont prévus pour préparer le futur de la formation d'une base habitée sur la Lune. Donc c'est des missions scientifiques, mais aussi avec un but quand même politique et qui sera aussi scientifique, mais de faire cette base chinoise, qui est la base concurrente probablement de la base des missions qui sont américaines, on parlait tout à l'heure, Artemis, qui sont aussi de faire une base. Alors Chang'e 7 va partir l'année prochaine, cette année
2000, ils annonçaient 2027.
C'est un peu en retard, et ça c'est sûr que c'est le pôle sud. Chang'e 8, c'est pas encore clair que ce soit le pôle sud, mais ça, j'ai pas les réponses. Voilà, donc ça sera l'idée, et c'est des missions qui, je pense, vont récupérer du matériel des missions Chang'e 7, Chang'e 8 pour faire la base habitée. Donc c'est des missions assez intelligentes.
Voilà, des missions, une mission conjointe avec la Russie. La feuille de route est encore floue, mais en effet, le projet, c'est de s'installer sur place. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault, mais un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour compléter l'écoute, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à podcaster notre série On va s'installer sur la Lune, 4 épisodes pour saisir tous les enjeux d'une future installation humaine durable sur le sol lunaire. Tout de suite, on quitte l'espace, on quitte notre satellite pour les mondes virtuels. C'est la chronique avec science.
Quelles sont les conséquences à très longue distance des séismes? On s'intéresse aujourd'hui au grand séisme survenu en Turquie il y a 2 ans, en 2023. Un premier de magnitude 7,8 le lundi 6 février à 4h17 et un second séisme de 7,5 autour de 13h30 un peu plus au nord. C'est donc un double séisme d'une ampleur impressionnante et l'un des plus meurtriers de notre siècle avec, selon les décomptes officiels certainement sous-estimés, plus de 50 000 victimes et 120 000 blessés. On sait de façon générale ce qui provoque un séisme, mais on manque encore de connaissances sur ces grands événements parce qu'ils restent rares. Cécile Doubre est physicienne du Globe à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg.
Les séismes, ils ont lieu sur des failles. Alors ces failles, elles permettent le mouvement des plaques. On sait que les plaques tectoniques, elles bougent. Et ces différentes plaques, elles sont rigides, elles se déforment pas, mais par contre, elles continuent à bouger et donc ça bloque à la frontière. Et donc le séisme, en général, c'est un relâchement des contraintes qui se sont accumulées le long des frontières de plaques. Heureusement pour nous, c'est que les séismes forts, ils restent rares. Et du coup, on n'a pas forcément des observations qui nous permettent de comprendre suffisamment les failles qui engendrent des tremblements de terre. Mais avec le temps et les moyens d'observation qui sont meilleurs et on a de plus en plus d'observations, et du coup, on arrive à comprendre davantage les mécanismes qui engendrent les séismes. Et on les observe aussi, les failles, en dehors encore des périodes de tremblements de terre. Donc, on a des observatoires, en fait, sur les failles et on comprend mieux les mécanismes qui engendrent les séismes.
C'est justement en suivant une faille à plus de 1000 km des séismes survenus en Turquie que ces scientifiques qui publient dans Science ont fait une découverte. Il s'agit au départ du travail de thèse de Zahor Behramov. Ce doctorant avait pour mission de suivre le mouvement régulier d'une faille dans le Caucase au niveau du bassin de Koura en Azerbaïdjan à l'ouest de la mer Caspienne. Pour cela, les géophysiciens emploient une méthode courante, c'est l'interférométrie radar. En comparant deux images satellitaires, ils sont capables de mesurer des mouvements de la surface du sol avec une précision centimétrique, voire millimétrique. Et il faut faire tout cela à la main et à l'œil. C'est un travail de fourmi et c'est en analysant ces images qu'il a découvert un déplacement de plusieurs centimètres sur non pas une faille, mais sept failles distinctes. En combinant cela à d'autres données géophysiques, notamment sismologiques, les auteurs et autrices ont découvert que ces déplacements ont eu lieu au même moment que le séisme turc. Résultat, les tremblements de terre en Turquie ont déclenché un autre séisme à plus de 1000 km de l'épicentre, mais sans provoquer de secousse sismique. C'est un séisme qu'on dit lent ou silencieux.
Le premier résultat, c'est qu'en effet, rarement on observe des séismes déclenchés par un autre séisme situé aussi loin. Ensuite, le deuxième résultat, c'est qu'en effet, les séismes déclenchés, donc les mouvements sur les failles en Azerbaïdjan, n'ont pas donné lieu à des tremblements de terre. Donc, c'est ce qu'on appelle des séismes lents, des séismes silencieux. Si les mouvements sur les failles en Azerbaïdjan avaient été sismiques, s'ils avaient donné lieu à un tremblement de terre, ça aurait donné un tremblement de terre de magnitude 6, vu l'ampleur des déplacements mesurés. Donc c'est un très gros tremblement de terre. Donc là, on observe un des plus gros tremblements de terre non sismiques, qui ne donne pas lieu à des zones sismiques jamais observées. Et ensuite, le troisième résultat de cette étude, c'est que on a vraiment une observation quasi directe du fait que ces séismes lents, dont on cherche l'origine partout dans le monde depuis plusieurs années, que vraiment ces séismes lents, ils sont liés à la perturbation du système hydrologique dans ces sédiments ou le long de ces failles.
Et cette déstabilisation des fluides dans la croûte terrestre est également à l'origine de petites éruptions d'une cinquantaine de volcans de boue, c'est-à-dire des formations géologiques particulières qui rejettent des sédiments, de l'eau et des hydrocarbures à leur surface. Jamais on n'avait observé autant d'événements déclenchés par un séisme. L'explication tient probablement au fait que les failles baignent dans des sédiments gorgés de fluides dans la région. Maintenant que l'on sait que c'est possible, l'enjeu est de revisiter le passé et de fouiller les archives avec les méthodes actuelles pour voir si de telles concomitances se sont déjà produites et pour aller plus vite et ne plus tout faire à la main, l'intelligence artificielle pourrait bientôt aider à détecter automatiquement ces événements et donc à mieux comprendre les séismes silencieux et ce qui les déclenche.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Ave Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Jean Guinin-Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.